RCF.
Et c'est sur cette musique entraînante que nous prenons l'antenne pour vous annoncer qu'il est 18h10 et que nous retrouvons le 18-19 en région avec Jean-Pierre Benoît et Alexis Claudretz.
Bonsoir à toutes et à tous, mercredi, on est très heureux de vous retrouver ce 4 octobre, 18h10, 19h, Jean-Pierre Benoît est à mes côtés, bonsoir.
Bonsoir Alexis, bonsoir à tous.
Parmi les habitués du plateau désormais, nos auditeurs ont pris l'habitude aussi, il y a notre stagiaire à la rédaction, Mélissa Tavares, bonsoir Mélissa.
Bonsoir.
Merci de nous accompagner ce soir, il fait sa rentrée un peu plus tard que les autres, il a prolongé ses vacances, mais on est très heureux de le retrouver avec des couleurs, il a pris le soleil, Robert Reverger est là, bonsoir Robert.
Bonsoir Alexis et bonsoir à tous.
Alors c'est vrai Robert, on va vous retrouver dans quelques instants, une nouvelle chronique aujourd'hui, on va vous voir, et le thème, le sujet, on peut d'ores et déjà le donner, c'est la chronique, c'est en un mot.
Voilà, c'est-à-dire que nous resterons peu ou prou dans la droite ligne de l'année dernière.
Eh bien c'est, j'allais dire, la continuité, on aura l'occasion bien sûr de vous retrouver le mercredi. Alexis, un programme encore bien chargé aujourd'hui.
Oui, j'allais dire un programme en quatre parties, vous l'avez compris, nos auditeurs l'ont compris. On commence avec Robert Reverger, ensuite à 18h20, on a toujours rendez-vous avec un maire sur notre territoire. On ira du côté de l'Agerie aujourd'hui, dans la Marne, à la rencontre de Régis Franck. Et puis en deuxième partie d'émission, on débriefera vraiment l'actualité, parce que des choses, il s'en passe. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est aujourd'hui que s'est ouvert le synode sur l'avenir de l'Église. C'est passé à Rome, il va durer 4 semaines. Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort était ce matin à la conférence des évêques de France à Paris, mais nous a accordé un entretien que l'on diffusera tout à l'heure en deuxième partie d'émission. Et puis on aura également la rentrée politique parlementaire débriefée par Fernand Tavares qui nous rejoindra d'ici quelques minutes sur ce plateau.
Et il évoquera aussi la disparition de Jean-Pierre Elkabbach, qu'il a bien connu lui-même, puisque quand il travaillait à France 3 et France 2, c'est lui qui était le PDG de France Télévisions.
18h13 sur RCF, Jean-Pierre, je vous passe la main pour la rentrée de Robert Reverger.
Eh bien oui, Robert, c'est à nous. Robert Reverger, donc bonjour.
Bonjour.
Alors, le sujet de vos chroniques, cette année, en un mot.
Eh bien, comme je vous le disais, nous resterons peu ou prou dans la droite ligne du thème de l'année dernière.
Où d'ailleurs, nous avons traité de l'histoire de l'éducation de l'Antiquité à nos jours. Alors, quelle sera donc, en fait, cette année, tout au long de cette année, Robert Reverger, notre fil conducteur?
Eh bien, nous parlerons des mots, M-O-T-S, bien sûr, et il s'agira de prendre un mot.
Un mot que vous aurez choisi, alors selon quels critères?
En résumé, nous essaierons de choisir un mot de notre quotidien, de notre actualité, pour, si je peux dire, jouer avec son étymologie et son histoire, pour le rattacher à notre patrimoine culturel et pour réduire les éventuels contresens et rectifier les à peu près et quelquefois les préjugés.
Ce qui nous rappellera les leçons de vocabulaire en quelque sorte de notre enfance. On retourne en cette période de rentrée en quelque sorte à l'école primaire d'une certaine façon.
Exactement.
Alors quel mot avez-vous choisi aujourd'hui? Je pense qu'à chaque fois, parce que vous êtes assez subtil et même très subtil Robert, vous allez choisir des mots peut-être qu'on entend beaucoup dans l'actualité ou des mots dont on connaît peu le sens. Vous allez peut-être nous remettre un petit peu dans le droit chemin.
Voilà, ou dont on ne connaît pas
la signification.
Le vrai sens exact. Voilà.
Alors, quel mot avez-vous choisi?
Eh bien, aujourd'hui, j'ai choisi un mot que l'on entend de plus en plus, vous le disiez, de plus en plus souvent, hélas, ma foi, un mot qui pointe une certaine violence, celle qui marque de plus en plus nos sociétés, je veux dire le mot incivilité.
Bien que de plus en plus souvent employé, c'est un mot tout de même assez savant, incivilité.
Oui, on peut même dire un peu vieillot, même s'il revient à la mode, mais vieillot par rapport à l'un de ses synonymes qui est impoli.
Que veut-on dire aujourd'hui, que veut-on nous dire quand on nous parle d'incivilité?
Être incivil aujourd'hui, c'est se comporter de manière impolie, comme je le disais, c'est manquer de respect envers autrui, c'est manquer de savoir-vivre, voilà, et... en d'autres temps, si l'on étudie l'histoire de ce mot, si l'on étudie son étymologie, on découvre que, voilà, plus de deux millénaires, en latin, incivilitas s'appliquait déjà à la violence et à la brutalité. Alors, quelques siècles plus tard, son sens s'est adouci. Molière a fait dire à Monsieur Jourdain, vous savez, le bourgeois gentilhomme, qui est sommé par Dorante de se couvrir alors que Monsieur Jourdain ne le souhaite pas. Et M. Jourdain se justifie en disant Je préfère être incivil, c'est-à-dire impoli, qu'important. Et pour cela, il remet son chapeau.
Voilà donc que le mot incivilité retrouve aujourd'hui un sens moins politiquement correct que chez Molière, son sens premier chez les Romains, peut-être son sens latin.
Tout à fait, en effet, le mot, surtout au pluriel, quand on dit les incivilités, le mot retrouve aujourd'hui son sens d'origine romaine, à savoir violence et brutalité, mais aussi injures, dégradations, et coups et bosses.
Alors une question alors se pose, qu'était, à contrario, la civilité, justement, chez les Romains ?
Pour eux, la civilité demandait un minimum de contraintes réciproques entre les citoyens, bien sûr, pour rendre possible la vie en société. En effet, cette civitas, à la racine du mot civilité, ne voulait pas dire alors la cité ou la ville, mais la condition du citoyen.
Alors quelles étaient à cette époque, parce que ça nous donne beaucoup d'indications pour aujourd'hui, quelles étaient donc pour eux ces contraintes, ces valeurs civiques et civiles nécessaires pour permettre une vie équilibrée en société ?
Eh ben, tout simplement, si j'ose dire, il s'agissait moins pour eux de suivre des grands principes que de suivre des règles destinées à rendre meilleures les rapports humains, et cela simplement à travers les actes et les gestes quotidiens. Pour nous, il n'est pas innocent, bien sûr, que nous sourions aujourd'hui devant les anciens manuels de morale dont nous parlions, dont l'un, au siècle dernier, était titré « Traité de civilité puérile et honnête ».
Alors, où en est-on, par exemple, aujourd'hui, pour ce qui est de l'enseignement de la morale ? Aujourd'hui, ça existe encore ?
Il avait été supprimé dans les années 60 par M. Pompidou, et il a été rétabli dans le primaire uniquement, d'ailleurs, en 2011 par M. Luc Châtel, mais malheureusement, ni la fréquence ni le contenu des cours de morale n'ont vraiment été définis. Enfin, passons.
Il semblerait que de nos jours, et peut-être de plus en plus, les incivilités apparaissent trop souvent comme normales aux yeux de la jeunesse.
Oui, je pense que vous avez raison, hélas, mais je ne suis pas persuadé, trois fois hélas, que cette dégradation de la civilité dans les relations humaines, soit réservée à la jeunesse.
Alors, comment remédier à cet état de choses ?
Oh, c'est une vaste question à laquelle, me semble-t-il, peu de gens, dont je fais partie d'ailleurs, en même temps que nos instances politiques, peu de gens, dis-je, savent ou souhaitent répondre. Alors, peut-être faudrait-il prendre le mal à la racine.
Alors, qu'est-ce que vous entendez par là ? C'est-à-dire prendre le mal à la racine ?
Tout simplement, faire preuve de civilité, c'est être, entre guillemets, bien élevé. Mais le problème, c'est de savoir bien élevé par qui.
Ben forcément, par les parents, normalement, par ses parents d'abord.
Oui, par ses parents qui donnent l'exemple, le bon exemple. Mais je ne suis pas sûr que les enseignants, les éducateurs puissent faire grand-chose si l'éducation n'est pas faite d'abord et avant tout dans la famille, ce qui n'est hélas pas toujours facile pour bien des raisons. Alors les incivilités finissent toujours, hélas encore, par engendrer de la violence, dans le langage d'abord, souvent, et puis dans les actes ensuite.
Alors cette violence d'ailleurs elle évolue et elle semble se diversifier et peut-être même hélas s'amplifier.
Oui, je crains que vous n'ayez raison encore une fois, les harcèlements scolaires, les bandes armées de plus en plus jeunes et de plus en plus violentes, les enseignants et les adultes en général que l'on respecte de moins en moins quand on ne les agresse pas, ce ne sont plus là d'ailleurs des incivilités mais c'est de la délinquance.
Eh bien Robert, on vous remercie, une belle rentrée aujourd'hui. Alors évidemment, on a envie de vous interroger, quel sera votre mot de la semaine prochaine ?
Eh bien, je ne l'ai pas encore choisi, mais si vous me le permettez, je voudrais avant de partir vous présenter à vous, mon cher Jean-Pierre Benoît, à celles et ceux qui sont autour de cette table.
Mélissa et Alexis.
Voilà, évidemment.
Pour ne pas les nommer.
Ainsi qu'à toutes nos auditrices et nos auditeurs, je vais y arriver, toutes mes civilités.
Eh bien, on voit que vous êtes bien élevé, Robert, ce soir. Merci. 18h19, avec vous, Alexis, la suite.
Le 18-19 sur RCF.
La suite avec moi, mais surtout avec vous, Jean-Pierre. Vous restez là avec un maire qui vous parle du côté de l'Agerie. On est bien dans la Marne. Il est en ligne, il est au téléphone. On le joint avec Fabrice Gironec qui fait la liaison.
Régis Franck, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre Benoît.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors on a beaucoup de plaisir à parler de votre commune et de vous-même, monsieur le maire. C'est l'occasion peut-être pour nous d'en savoir un peu plus sur la commune de l'Agerie. Combien d'habitants à l'Agerie ?
À l'Agerie, on a 230 habitants.
Et vous-même, monsieur le maire, depuis combien de temps vous êtes maire de l'Agerie ?
Alors, je suis maire de l'Agerie depuis 2008, le 21 mars 2008.
Vous avez toujours aimé cette fonction de maire. Vous avez toujours été peut-être dans le conseil municipal. Comment ça s'est passé pour vous?
Ben oui, écoutez, je suis au conseil municipal depuis 1989. Donc ça fait déjà pas mal, hein, on passe les 30 années. Hein.
Et finalement, à chaque fois qu'il y a un renouvellement de mandat, bon, vous êtes content quand même de recommencer. Oui. Est-ce qu'on peut dire que c'était dans votre ADN?
Oui, c'était un peu dans mon ADN, hein, j'aime bien.
Alors votre commune aujourd'hui, Lagerie, est-ce qu'on peut la présenter? Est-ce qu'il y a dans la population des retraités, des jeunes, des moins jeunes, des types d'activités?
Il y a beaucoup de jeunes, hein, de plus en plus, hein, parce que tous les gens viennent du secteur de Reims, hein. Après, les anciens, ça disparaît doucement, voilà.
Et c'est à combien de kilomètres de Reims vous faites Lagerie?
Oh, elle est à 25 kilomètres.
Est-ce que vous avez senti, monsieur le maire en particulier, on pose souvent au maire, à partir du moment où il y a eu le Covid, que des personnes se sont dit, on aimerait bien être dans une commune, une belle commune, tranquille, où on peut profiter d'avoir un petit jardin, un petit espace, plutôt qu'être dans un appartement à Reims?
Oui, tout à fait, c'est vraiment ce qu'on a ressenti et on s'aperçoit que c'est bien ça, puisque là, on a en ce moment 4 constructions en route. Hein.
Alors, vous êtes souvent sollicité, et il y a des maires qui ne veulent pas rempiler, justement, parce qu'ils se disent, c'est vraiment énormément de responsabilités. C'est vrai qu'aujourd'hui, on en demande beaucoup aux maires.
Ah, oui, en ce moment, c'est très dur. Hein. C'est vrai qu'on se pose la question, est-ce qu'on se représentera ou pas? Parce qu'on nous en donne de plus en plus, hein.
Alors c'est vrai aussi, monsieur le maire, on est avec vous du côté de Lagerie aujourd'hui. Est-ce que on est encore, quand on est maire, en quelque sorte le patron chez soi, avec les communautés de communes, avec le Grand Reims? Il y a beaucoup de compétences qui sont peut-être un peu parties, mais le maire, il est quand même reconnu dans la commune.
Écoutez, nous, avec le Grand Reims, on a aucun problème, hein, tout se passe bien, on arrive à gérer tout ce qu'on a à gérer, et puis ils nous laissent pas tomber, hein, ils sont quand même là, hein, donc il n'y a aucun problème de ce côté-là.
Et quand vous dites maire de Lagerie, le maire, c'est encore quelqu'un qui compte. Quand on est maire d'une commune comme Lagerie, on est vraiment reconnu par... Vous connaissez tout le monde, de toute façon, monsieur le maire.
Ah oui, sur Lagerie, on connaît tout le monde. Bon, à part quelques habitants qui viennent pas faire un tour en mairie pour dire qu'ils sont arrivés à Lagerie, mais bon.
Oui, ça se perd peut-être un peu, hein, ça. Bon, ils ont pas l'habitude, mais bon, de toute façon, s'il y a des problèmes, ils viendront vous les demander, hein, monsieur le maire, de toute façon.
Ah ben, c'est certain, hein, serait-ce que pour aller à l'école, serait-ce que pour toutes ces choses-là, quoi.
Oui, parce que qu'est-ce qu'on vous demande aujourd'hui, les questions qui sont formulées par vos administrés?
Eh ben les gens je vous parle de ceux qui arrivent dans le village, hein, ils viennent en mairie et voilà ce qu'ils demandent, c'est l'école, tout ce qu'il y a autour, les commerçants, enfin voilà. Mais bon, nous on n'a pas trop, on n'a qu'une boulangère qui passe, c'est déjà bien. Voilà, on a que des choses comme ça qui sont demandées, hein, ou alors c'est de l'urbanisme, voilà.
Alors justement, Lagerie, combien d'habitants, vous l'avez dit au début, j'ai pas bien entendu, monsieur le maire.
230, mais ça va monter vite là.
Bon, 230, 240, 250. Est-ce que vous avez des projets en cours à plus ou moins long terme avec votre conseil municipal?
Écoutez, on vient déjà de faire un gros projet là. On a refait l'église entièrement. On a fait un terrain de jeu pour les enfants qui en sont très contents d'ailleurs. Il est très sollicité, ils sont là tous les jours. Voilà. Mais sinon, en gros projet, on n'a plus de trop gros projets. Hein. Pour l'instant, on va faire un break.
Il faut bien. Au niveau voirie, tout va bien. Parce que souvent, il y a François Moura qui nous demande toujours. Alors, vous demande.
Deux bouts de voirie à refaire et ils vont me les faire en 2024. Il n'y a aucun problème.
Alors, souvent, les maires, ils disent... conjuguer le fait d'être maire à la vie professionnelle, le fait d'être maire et la vie familiale, c'est pas toujours évident. Vous y arrivez, vous, monsieur le maire?
Écoute, moi j'y arrive, mais c'est mon épouse qui gère moins bien parce qu'elle est pas très contente. Mais on n'a pas le choix. Hein.
Vous pouvez la faire entrer, elle n'est pas elle-même au conseil municipal, elle pourrait.
Non, elle n'est pas au conseil municipal. Hein.
Parce qu'à ce moment-là, comme elle sera impliquée avec vous, elle verrait le boulot que ça représente. Mais enfin, ça s'arrange quand même. Vous arrivez quand même à tout faire.
Tout à fait.
Alors, est-ce qu'il y a une journée type, votre journée, monsieur le maire, par exemple, aujourd'hui, au moment où on enregistre cette émission, vous pouvez être pris à n'importe quel moment, parce que souvent, les gens prennent pas toujours peut-être rendez-vous, ils vous croisent dans la rue, ils vous exposent une question ou un problème.
Ah ben tout à fait, hein. On est toujours sollicité, on a des coups de téléphone en permanence. C'est vrai que quand je bricole un petit peu dans la commune, parce que je bricole beaucoup pour la commune, je rencontre des gens, bah des fois on fait pas tout ce qu'on veut faire parce que ben on discute quoi.
Mais bricoler pour la commune, ça veut dire que si vous n'aviez pas ces talents de bricoleur, vous devriez faire appel, j'allais dire, ça coûterait quand même un peu plus cher, non ?
Oui, oui, tout à fait. Hein. Mais bon, maintenant, je commence aussi à avoir de l'âge et puis j'en fais un petit peu moins. Hein.
Alors, pour terminer, il nous reste une minute et demie pour dire à peu près. Alors, monsieur le maire, est-ce que vous êtes, et on pose la question à chaque fois, un maire heureux, finalement, après tout ça ?
Bah, écoutez, je vais pas dire que je suis malheureux. Hein. Je vais dire que je suis heureux, en fait. Hein, mais bon, on sait pas comment ça va se terminer plus tard, hein, avec tout ce qu'il nous redonne en plus, on ne sait pas. Hein,
parce que vous dites, et pour terminer, c'est vrai que vous avez de plus en plus de paperasserie, c'est ce qui ressort de toutes les interviews qu'on réalise là depuis début septembre, ça fait à peu près 25 maires que nous avons déjà reçus, ils se plaignent un peu quand même, hein. Ils disent on est un peu noyé sous l'administration.
Ah oui, oui, c'est tout à fait ça, et on utilise deux fois plus de papier qu'avant alors qu'on devrait en utiliser moins. Hein.
Écoutez, en tout cas, l'antenne de RCF, Régis Franck, vous est toujours ouverte et que si vous avez dans votre commune tel ou tel événement dont vous souhaitez parler, bah, il ne faut surtout pas hésiter, on vous donnera la parole et puis n'hésitez pas à nous appeler de votre côté et puis RCF, bien sûr, vous permettra de joindre des habitants ou des personnes de votre entourage. Merci Régis Franck d'avoir été avec nous.
Ok, Jean-Pierre Benoît, merci aussi à vous.
Merci Régis Franck, maire de Lagerie, et à bientôt sur RCF.
Au revoir. À bientôt.
Merci Régis Franck, merci Jean-Pierre, vous êtes toujours là avec nous à 18h27.
Bien sûr Alexis.
Et puis on aura une deuxième partie d'émission, on l'a dit, on retrouvera notamment Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort qui évoquera le synode sur l'avenir de l'Église qui
que
s'est
vous
ouvert.
Que vous avez interrogé ce matin.
Que j'ai interrogé ce matin, c'est en léger différé, voilà, mais il évoquera donc le synode sur l'avenir de l'Église qui s'est ouvert aujourd'hui pour 4 semaines, ça se passe du côté de Rome. Et puis en deuxième partie d'émission, on retrouvera aussi Fernand Tavares pour revenir sur un certain nombre de sujets d'actualité, notamment l'actualité parlementaire et comme on le dit dans un bon anglais, c'est l'heure du teasing.
Mais c'est l'heure du teasing. Alors on peut dire, Fernand, qu'il y a plusieurs événements qui ont retenu votre attention. Hier soir, on a appris la disparition de Jean-Pierre Elkabbach, qui avait marqué le journalisme français. Vous l'avez connu, il a été PDG de France Télévisions au moment où vous étiez à France 3.
Je l'ai très bien connu, et en dehors de France Télévisions, je le croisais régulièrement, notamment tous les 14 juillet à l'Élysée. Car les journalistes politiques, quels qu'ils soient, mais en particulier ceux qui étaient en première ligne, étaient invités à la garden party de l'Élysée. Et là, il était toujours très content. Alors j'ai connu Jean-Pierre Elkabbach à plusieurs époques, dans cette époque-là. On en a surtout parlé à partir de 1981 entre nous, parce qu'à partir de 1981, tout est parti un petit peu de travers. Les journalistes soupçonnés d'être un peu à droite ont été mis au placard. Les journalistes ayant interviewé des personnalités de gauche, notamment avant que la gauche vienne au pouvoir, ont été un peu montrés du doigt. Jean-Pierre Elkabbach, lui, s'est fait aussi un petit peu tirer dans les jambes par un certain nombre de politiques. Et il a été, à un moment donné, écarté parce qu'on le trouvait trop virulent avec les uns et les autres, et les hommes de pouvoir en particulier. Alors évidemment, tout le monde a en tête le Georges Marchais, qui était devenu une caricature et qui s'en amusait. Mais Jean-Pierre Elkabbach était un homme particulier. Il travaillait jour et nuit. Il pensait à ces questions jour et nuit. Il voulait absolument être différent des autres journalistes. Et sa réflexion était longue et mûrie. Il ne disait jamais d'avance « voilà comment ce que je vais vous dire ». Il mettait ses interlocuteurs un petit peu dans le coup, mais il ne ciblait pas du tout, il ne disait pas quelle flèche il allait décocher. Il en décochait souvent, pour le meilleur et pour le moins bon. En tout état de cause, ça intéressait quand même l'opinion, sa façon de traiter les politiques. Les gens se disaient, les auditeurs de la France profonde, comme on dit, se disaient « voilà un homme qui n'a peur de rien, après tout il prend des risques, il peut se faire virer du jour au lendemain, Il l'a été plus ou moins, mais il a toujours rebondi. Il a toujours rebondi parce que c'était un grand professionnel, un homme exigeant qui ne supportait pas la médiocrité. J'entendais l'autre jour Gérard Holtz, journaliste sportif qui présentait le journal télévisé d'Antenne 2 à l'époque, indiquait que Jean-Pierre Elkabbach ne l'avait plus supporté lorsqu'il était devenu directeur d'Antenne 2. Il a dit à Gérard Holtz, non, je trouve que la façon de présenter, ta façon de présenter le journal télévisé est trop légère, donc t'arrêtes, c'est fini.
Merci, merci Fernand. On vous retrouve dans une poignée de minutes après le journal régional et Mgr Éric de Mounabeaufort, journal régional que l'on retrouve tout de suite. Il nous est présenté comme tous les soirs par Alexis Claudretz.
Avec les titres de ce mercredi 4 octobre à Épernay, l'édition 2023 du forum Ambition Climat a été inaugurée cet après-midi à la mairie jusqu'au 12 octobre. Expositions, ateliers, visites et rencontres seront proposées autour de la sobriété. Un an après avoir lancé la possibilité d'être confirmé dès la 6e, en même temps que l'on fait sa profession de foi, l'espace missionnaire Sud-Ardennes tire les premiers enseignements de cette nouveauté.
RCF, l'actualité régionale, Alexis Claudretz.
Mais avant de développer ces titres, un mot de Thomas Cazenave, ministre délégué chargé des comptes publics. Il était dans la Marne en milieu d'après-midi pour échanger sur le projet de budget de la France pour l'année 2024 avec des citoyens. Il a profité de ce déplacement pour inaugurer les locaux de la DGFiP de la caserne Chanzy à Châlons-en-Champagne. Dans le cadre de sa démarche Ambition Climat 2025, Épernay Agglo-Champagne, en partenariat avec l'association Terre Avenir, lance ce jeudi 5 octobre son nouveau forum climat autour de la sobriété que nous présente Jonathan Rodriguez, adjoint à l'Agglo d'Épernay en charge de la transition écologique.
10e édition cette année, chaque année on change de thématique et puis il nous est paru utile de voir cette thématique de la sobriété de manière générale, sobriété énergétique, sobriété en consommation d'eau, sobriété aussi foncière sur la consommation des sols, parce que l'Agglo d'Épernay a toujours été... Dans cette politique-là, on a été reconnu territoire de sobriété foncière aussi parmi les 7 territoires nationaux. Donc, c'était un petit peu ce qui nous a touché un peu après la guerre en Ukraine et l'augmentation des prix de l'énergie. C'est la sobriété qui était au cœur de l'actualité. Et beaucoup de communes ont trouvé des solutions parfois rapides pour être dans cette sobriété, pour le coût énergétique. Mais il y a aussi toutes les autres sobriétés.
Expositions, ateliers, rencontres et visites seront proposées jusqu'au 12 octobre avec une nouveauté en particulier samedi, Jonathan Rodriguez.
Ouvert au grand public avec différentes animations, des ateliers, des jeux, des conférences, débats sur le thème de la sobriété, très très varié avec des associations, des institutions qui vont venir présenter des choses. Donc c'est le samedi 7 octobre de 10h à 18h au Palais des Fêtes de Pernay.
Des propos recueillis par Christopher Fausten de RCF Cœur de Champagne. Le programme complet est à retrouver sur le site epernay-aglo.fr. C'est aujourd'hui qu'est sorti en salle le film Bernadette, réalisé par Léa Doménac, consacré à la vie de Bernadette Chirac. Ce long métrage a été tourné en grande partie à Épernay et Châlons-en-Champagne. D'ailleurs, des avant-premières avaient été diffusées dans toutes les salles obscures de la région, ou presque. Soirée de fête ce mercredi au château fort de Sedan pour célébrer son titre de monument préféré des Français à qui, il y a quelques semaines maintenant, de nombreuses animations sont organisées depuis une trentaine de minutes. Ça a commencé à 18h et jusque 22h pour célébrer ce titre dans une ambiance conviviale. Si vous n'êtes pas loin du château fort, eh bien vous pouvez y aller, c'est porte ouverte. Il y a une ambiance musicale notamment qui est proposée, un petit coup à boire. Il fait encore beau, on peut profiter des derniers rayons de soleil de la saison estivale. Donc c'est l'occasion, pourquoi pas, de faire la fête au château fort de Sedan. Il y a un an, le diocèse de Reims et les Ardennes autorisait les adolescents à faire leur confirmation en même temps que leur profession de foi dès la 6e. Dans l'espace missionnaire Ardennes Sud, l'initiative a été plutôt bien reçue et les diocésains ont répondu à l'appel. Une nouvelle dynamique a été lancée. Le père Arnaud Toury, responsable de l'espace missionnaire Ardennes Sud.
Alors écoutez, c'est toujours difficile encore quand les choses sont en cours de dire si c'est une bonne ou une mauvaise idée. De toute façon, ce qu'on peut quand même percevoir, c'est que la réponse à cette proposition a été plutôt bien vue et accueillie avec confiance de la part des parents et des jeunes. Sur notre espace, donc au total, ce seront 136 personnes qui vont être confirmées dans les prochaines semaines. Déjà quelques-uns le 30 septembre à Le Chêne. Parmi ces 136, une quinzaine d'adultes, 25 jeunes de 4e, 3e, seconde, et puis le reste donc des jeunes qui viennent d'entrer en 5e. On a vécu une très très belle retraite de confirmation le 9 septembre à l'école Sainte-Thérèse, et on a vu vraiment un dynamisme et une soif des uns et des autres de vivre maintenant le temps de la célébration. Vraiment, nous, ce qui nous a beaucoup touchés, en fait, c'est aussi toute la créativité qui s'est dégagée autour de ces célébrations de la part des familles. Une question se posait, c'était celle de trouver des parrains et marraines de confirmation, donc qui doivent être nécessairement confirmés. Donc il y a des familles qui se sont arrangées entre elles pour que un jeune soit confirmé en début, dans les premières célébrations, et puisse être le parrain éventuellement de son petit frère ou de sa petite sœur quelques semaines plus tard. Voilà, par exemple. On a vu des adultes se mettre en route en se disant comme ça je pourrais être parrain de confirmation de mon filleul de baptême dans quelques temps. Au départ il y avait un peu d'inquiétude de la part des parents en se disant oui mais la célébration de profession de foi, donc on a vraiment tenu à rassurer sur le fait que la profession de foi a bien lieu au cours du rite de la confirmation. Et puis il y aura ces fêtes familiales qu'on connaît autour de ces moments très importants pour les jeunes.
Au total, dans l'espace missionnaire Ardennes Sud, on compte cette année 136 confirmants, dont une quinzaine d'adultes. Les premières confirmations ont eu lieu le week-end dernier au Chêne, mais elles se poursuivent ce week-end à Neuvy-Chevrières et Signy-Abbaye, le 29 octobre à Vouziers et Rethel, et le 12 novembre à Neuvisy, Rethel et Le Fincourt. Jean-Pierre, je le sais, vous êtes un fin gourmet. Et ça ne vous a pas échappé, si je vous parle du restaurant L'Extra Goûter la Différence, on en parle régulièrement sur les ondes de RCF.
On en parle très régulièrement.
Eh bien, peut-être que vous ne le savez pas, mais depuis aujourd'hui, le restaurant est référencé au Guide Rouge, le fameux Guide Michelin. Ça ne veut pas dire que le restaurant a une étoile, mais ça veut dire qu'il est recommandé sur le site internet du Guide Michelin. On le rappelle, c'est un restaurant inclusif et éco-responsable. Je vous lis l'avis du Guide Michelin publié depuis midi sur le site internet. En face des Halles du Boulingrin, classé monument historique, ce restaurant est abrité au sein d'un bâtiment des années 1920 aux influences Art Nouveau. Joli projet, la majeure partie de l'équipe en salle comme en cuisine est constituée de personnes présentant un handicap mental. En cuisine, l'encadrement est assuré par un binôme expérimenté constitué du chef Philippe Joly, ex-second du Foch, et du pâtissier François-Xavier Cormary. Dans un cadre épuré et contemporain, on pioche dans une carte actuelle bien tournée, espuma d'asperges sur tartelettes de jambon de Reims, aile de raie, risotto d'épeautre et jus d'ortie au beurre noisette, pavlova et tartare de fraises, sorbet fruits rouges, belle sélection de vin et champagne. Un avis vraiment élogieux pour ce restaurant qui a ouvert ses portes il y a à peine 6 mois, Jean-Pierre.
Vous nous mettez en appétit, Alexis.
Effectivement, je vous mets en appétit, c'était juste l'apéritif parce qu'on aura l'occasion de revenir plus complètement sur ce sujet avec le chef Philippe Joly dans les prochains jours. Je vois Fernand Tavares qui est intéressé par la question du prix. Je vais vous donner le coût. Combien ça coûte d'aller manger au restaurant inclusif? C'est généralement un prix net supérieur pour 2 plats à 26€ sans les boissons, pour 3 plats 35€ sans les boissons, sachant que le restaurant ne vend pas de boissons alcoolisées. Il y a un droit de bouchon, on peut venir avec sa bouteille de vin par exemple. Par contre, comme on est quand même à Reims, il y a de la vente de champagne. Soyez rassurés, Fernand. Un mot de sport avant de refermer ce journal. Du basket en déplacement à l'occasion du 3e match de Leaders Cup Pro B. Le Champagne Basket a de nouveau dominé Évreux hier soir. 70-67, un résultat qui permet à l'Alliance Champenoise d'assurer sa qualification pour la suite de la compétition avant même la dernière journée qui sera disputée vendredi. Et puis c'est du direct, ça vient de tomber il y a quelques minutes au 5e tour de la Coupe de France. Le club sportif Selon Ardennes qui, vous le savez, cette année évolue en région 3, il y aura un derby puisque le CS Sedan Ardennes sera confronté à la formation de Reims-Sainte-Anne qui, elle, évolue en National 3. Il y a quelques divisions d'écart désormais entre ces deux formations, mais ça promet, quoi qu'il arrive, un Sedan-Reims, quel que soit le tirage, ça promet d'être un derby chaud bouillant. 18h39, ainsi se referme ce journal. Le 18-19 en Champagne continue sur RCF.
Le 18-19.
Tous les jours.
Sur RCF.
À Reims.
Chalon. Charleville-Mézières.
À 18h39 en direct dans ce magazine régional. Alexis Claudrette, je crois que vous avez à nous proposer ce soir un rendez-vous avec Mgr Éric de Moulin-Beaufort.
Mgr, bonjour.
Bonjour Alexis, bonjour à tous et à toutes.
Vous êtes avec nous ce mercredi parce que c'est une journée qui est annoncée comme historique avec l'ouverture d'un synode sur l'avenir de l'Église catholique. C'est la 16e Assemblée Générale Ordinaire du Synode des Évêques, Monseigneur. De quoi s'agit-il en quelques mots ?
Il s'agit donc de la phase presque ultime d'un processus qui a commencé en octobre 2021 quand le pape a demandé à toute l'Église et à tous les diocèses, donc à tous les chrétiens de se mobiliser, à tous les catholiques en tout cas de se mobiliser pour réfléchir à ce qu'ils avaient, ce qu'ils comprenaient comme étant l'enjeu présent pour l'Église aujourd'hui. Donc ce processus l'a vécu en diocèse, il a abouti à des synthèses nationales, ensuite à un document un peu international qui a été travaillé à l'échelle de chaque continent. Pour nous en Europe, c'était en février dernier à Prague. Et maintenant nous sommes donc à la phase mondiale et se réunissent des délégués de toutes les conférences épiscopales, des délégués évêques, prêtres et aussi laïcs.
Un rendez-vous que l'on annonce comme historique, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, parce qu'il y a des questions que l'on va dire tabous dans l'Église qui devraient être abordées à l'occasion de ce synode. On pense à l'ouverture de l'Église aux laïcs, la place des femmes notamment, peut-être même la bénédiction des couples de même sexe. Ça fait beaucoup de sujets qui sont mis sur la table où finalement il y a des attentes derrière de la part de la population, j'allais dire française mais internationale surtout, Monseigneur.
Alors je crois qu'il ne faut pas se tromper sur l'objectif du synode. De fait, je crois que le synode, j'espère en tout cas qu'il sera un lieu d'approfondissement et peut-être de libération aussi de l'attitude de l'Église, de la posture de l'Église dans sa relation avec les personnes. Après, le but du synode n'est pas de régler des situations difficiles ou douloureuses. Le pape a déjà beaucoup insisté sur le fait qu'il fallait accompagner les personnes. Mais voilà, l'Église doit se présenter comme le oui de Dieu qui dit à chaque être humain qu'il peut avancer vers Dieu. Et non pas d'abord comme une machine à distribuer des noms et des interdits. Pour toutes sortes de raisons, depuis des décennies, nous paraissons comme enfermés dans ce rôle, alors que fondamentalement, l'Église est faite pour dire le oui de Dieu à la vie de chaque être humain, ce qui passe quand même par la conversion, par la transformation de cette vie. Saint François d'Assise, que nous fêtons aujourd'hui et qui est un peu comme le patron de ce synode, en est le bel exemple.
Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, ce que vous nous dites, c'est que c'est un travail de profondeur qui va être effectué pendant les 4 semaines à venir.
Je pense que c'est tout l'objet. Le pape a allongé la durée du synode, il a voulu le faire commencer par un temps de prière écuménique. Donc toutes les églises se sont mobilisées pour prier pour les catholiques, c'est ce qui s'est passé samedi soir, place Saint-Pierre. Ensuite par 2 jours de retraite, 2 ou 3 jours de retraite spirituelle que ont vécu les différents participants du synode. Donc il ne s'agit pas de pression qui doit pousser tel ou tel sujet, considérés comme des avancées par les uns, par des renoncements comme les autres, mais plutôt de chercher vraiment ensemble quelle doit être la juste posture, quelle est la juste manière de l'Église d'aller vers les hommes et vers les femmes pour leur dire la vérité de Dieu, pour les engager, les encourager à avancer sur le chemin de Dieu, pour affirmer que tout être humain, d'où ou qu'il soit, quoi qu'il en soit de sa vie, peut avancer vers Dieu. Ce n'est pas dire que tout lui soit dû, que tout soit donné d'un coup.
Mine de rien, même s'il va y avoir ce travail en profondeur, qu'il va y avoir des réponses qui vont être attendues, Monseigneur, on l'annonce aussi comme historique avec les 464 participants à ce synode, dont 54 personnes sont des femmes, d'ailleurs dont la française Nathalie Bécard. Donc malgré tout, lorsque l'on regarde ça de l'extérieur, on se dit qu'il y a quand même une idée de vouloir s'ouvrir de la part de l'Église catholique, Monseigneur.
En fait, le synode exprime des changements qui rendent visibles, des changements qui sont présents depuis longtemps, dans tous les diocèses, en tout cas en France. Il y a depuis longtemps des femmes qui dirigent les services diocésains, qui participent aux conseils épiscopaux. Ici, je vous parle depuis Paris, à Avenue de Breteuil, à la conférence des évêques, il y a 2 femmes parmi les secrétaires générales adjointes, et il y a beaucoup de femmes qui dirigent les services nationaux. Donc de ce point de vue-là, de fait, il y a beaucoup de laïcs aussi, surtout, qui sont présents et qui nous aident. Donc la déclaricalisation de l'Église, il y a longtemps qu'elle est commencée, alors de fait, cette figure du synode, ce synode-ci va le rendre visible. Il est temps. Et il n'y a pas que Sœur Nathalie Bécard comme femme. Nous avons la joie qu'il y ait une Française qui a été choisie, présentée par la Conférence des évêques, qui a été choisie par le pape pour faire partie des membres du synode. Donc une Française de Rodez. Et donc oui, ce synode donne une figure plus juste, je crois, de ce qu'est la vie de l'Église, qui ne se concentre pas simplement autour des évêques.
Ce synode qui, vous l'avez dit, dont les travaux ont débuté il y a bien plus tôt en diocèse, il s'inscrit aussi dans un contexte où l'Église est confrontée à la fois à une crise des vocations, une baisse du nombre de fidèles en Occident. Ça veut dire que c'est un synode aussi qui est attendu pour les plus fidèles, et bien se dire voilà, l'Église finalement réagit et essaye de faire en sorte de s'ouvrir davantage.
Tout d'abord, l'Église est dans des différences selon les pays du monde. Il y a des pays du monde où elle progresse, où il y a des vocations nombreuses, Voilà, donc il y a des saisons aussi dans la manière dont des peuples répondent à l'annonce de l'Évangile. Alors c'est vrai que nous, occidentaux, en particulier nous Français, nous attendons, nous espérons du synode qui nous donne encore plus de force, de liberté, d'enthousiasme pour vivre un peu la joie que nous avons connue à Marseille, par exemple, et que nous avons senti qui devrait être le vrai climat de l'Église. Nous avons dû affronter surtout partout la révélation des abus sexuels sur des mineurs, sur des abus de pouvoir toujours possibles. Et il y a eu un travail de vérité qui s'est fait. Pour ma part, je trouve que ce travail de vérité que nous avons fait, que nous continuons à faire et qu'il faut continuer à faire jusqu'au bout, c'est cela qui nous donne la liberté de s'engager davantage dans la mission à la suite du Christ, comme le Christ le demande. Mais le chemin du Christ sera toujours le chemin d'une vie un peu paradoxale, parce que le Christ est venu pauvre, chaste et obéissant. Et il s'agit toujours pour nous de vivre cela, non pas de dire à l'humanité tout ce que vous vivez est bien, mais de dire à l'humanité, vous pouvez vous convertir et ça vaut la peine de vous transformer. Ça vaudra pour la paix et la vie universelle.
Et vous l'avez dit, Monseigneur, ce synode aussi, il va s'appuyer sur des consultations qui ont été effectuées au préalable auprès de 1,3 milliard de catholiques à travers le monde. C'est des travaux d'abord qui ont été établis en diocèse, puis j'allais dire par pays et puis par continent, comme vous l'avez justement évoqué, vous étiez rassemblés à Prague. Ça veut dire que c'est important aussi de prendre en compte la voix des fidèles, quelque part, ce qu'ils attendent pour avoir cette réflexion avec ce synode sur l'avenir de l'Église catholique, Monseigneur.
Tout à fait, le pape il a raison sur le fait que le synode est une consultation d'experts. C'est tout le peuple de Dieu qui se met à l'écoute de ce que l'Esprit Saint veut nous dire. Je crois que dans les événements que nous vivons, y compris dans les événements douloureux que vous avez mentionnés, la baisse du petit nombre de vocations, en tout cas dans nos pays, des vocations tant religieuses que sacerdotales, Dieu nous dit quelque chose et personnellement je pense qu'il invite tout le peuple de Dieu et tout le monde, tous les baptisés, à s'engager assez radicalement dans la suite du Christ. Et encore une fois, l'exemple de Saint Francis peut nous inspirer, non pas que tout le monde doive devenir franciscain, mais que tous nous devons accepter, enfin nous sommes appelés en tout cas à accepter de porter la marque du Christ, et ce rapport paradoxal que Jésus nous enseigne au bien de ce monde, y compris à la sexualité d'ailleurs, et à la domination, au pouvoir. Les derniers événements, tous les abus révélés nous démontrent que le besoin de dominer, de posséder, habite l'humanité plus profondément qu'on ne pouvait le penser et de manière terrible, parfois meurtrière. C'est ça qu'il s'agit de guérir avec la force de l'Esprit Saint.
Ce synode sur l'avenir de l'Église catholique, le coup d'envoi est donné aujourd'hui, c'est pour 4 semaines. On a déjà été prévenu que la communication sera limitée d'ici le 29 octobre, c'est le Vatican qui l'a prévenu. L'idée, c'est, comme vous l'aviez dit au début de cet entretien, Monseigneur, c'est vraiment de laisser travailler les personnes, les 464 participants, et puis de laisser avancer ce travail sur cette profondeur de réflexion pour quelque part être tranquille et ne pas être parasité par des bruits extérieurs qui pourraient arriver d'ici de là.
D'autant plus vrai que cette session n'est que la première de 2 sessions. Donc entre les deux, ce qui est annoncé, c'est qu'il y aura de nouveau une consultation des églises locales à travers le monde. Je ne sais pas de quelle manière, on verra bien de quelle manière on le demandera. Mais en tout cas, c'est ce qui est annoncé. Et il y aura en octobre 2024 une autre session, le tout devant aboutir à des recommandations qui seront présentées au pape. Et c'est le pape qui en tirera les conclusions. En tout cas, c'est comme ça que fonctionnent les synodes dans l'Église catholique.
Un grand merci, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, archevêque du diocèse de Reims et des Ardennes, président de la Conférence des évêques de France, de nous avoir éclairé sur ce synode sur l'avenir de l'Église catholique. Juste une question pour revenir au diocèse, parce qu'on parlait des consultations, etc. Il faut dire que ce week-end, dans le diocèse de Reims et des Ardennes, alors ce n'est pas forcément en lien avec le synode qui s'ouvre aujourd'hui du côté de Rome, mais il y a de nouveau un rassemblement diocésain avec les différents acteurs pastoraux. Ça veut dire que le travail continue, là aussi, même en diocèse, sur d'autres volets.
Exactement, dans ce rassemblement, et nous utiliserons la méthode de la conversation spirituelle qui sera celle employée par la session synodale, parce qu'il s'agit bien de vivre la synodalité au quotidien.
Merci Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, et on vous dit à très bientôt sur les antennes de RCF, notamment on vous retrouve en alternance tous les vendredis matins, une fois tous les 15 jours, avec Monseigneur Étienne Véteux. À très bientôt Monseigneur.
Merci beaucoup Alexis, et merci à tous et à toutes.
Le 18-19 sur RCF.
Voilà, il est 18h48. On aura l'occasion de retrouver vendredi matin Monseigneur Étienne Véteux, qui est évêque auxiliaire du diocèse de Reims, après donc avoir entendu aujourd'hui Monseigneur Éric de Moulins-Beaufort. Et à 18h49, Alexis, on retrouve comme promis Fernand Tavares, qui est avec nous. Fernand, rebonsoir, pour ceux qui n'étaient pas avec nous tout à l'heure. C'est vrai que vous avez évoqué tout à l'heure déjà la disparition de Jean-Pierre Elkabbach, que vous avez bien connu. Vous aviez évoqué votre rencontre au temps où il était
à France Télévisions.
Mais il a été aussi responsable, directeur, président, je ne sais plus exactement, de la chaîne parlementaire où vous avez travaillé. Là, vous l'avez rencontré aussi.
Alors, en fait, il y a deux chaînes parlementaires. Il y a la chaîne parlementaire de l'Assemblée nationale, c'est une chose. Et lui, il est devenu président de la chaîne parlementaire Public Sénat, donc du Sénat. C'était un petit peu surprenant de voir un homme comme lui changer complètement de style, puisqu'il entrait cette fois directement en politique pour traiter avec des hommes et des femmes politiques qu'il avait beaucoup connus pendant une soixantaine d'années. Mais en même temps, comme il était devenu président, PDG, il a pris une autre dimension. Et en dehors de la politique politicienne, il a ouvert les débats. Et en particulier, il a créé une émission qui s'appelait Bibliothèque Médicis. À l'intérieur de cette Bibliothèque Médicis.
Très belle émission.
Une très belle émission.
Et puis, il a reçu énormément. Très beau décor.
Effectivement, vous savez, les décors du Parlement, c'est extraordinaire, mais la Bibliothèque de l'Assemblée nationale aussi. Alors, que faisait Jean-Pierre Elkabbach? Vous allez me dire, mais il invitait des politiques. Non, pratiquement pas à Bibliothèque Médicis. Il invitait souvent des philosophes, des écrivains, des artistes, peintres ou autres. Ce qui fait que, tout d'un coup, il a pris lui-même une dimension culturelle et intellectuelle différente. Si je vous dis ça, c'est parce que des années plus tard, lorsqu'un nouveau Premier ministre a été nommé, ce nouveau Premier ministre s'appelait Jean-Pierre Raffarin, comme par hasard, c'était un ancien sénateur, évidemment, et donc c'est là qu'il l'a bien connu, et je l'ai toujours entendu dire qu'il aurait aimé à un moment donné, non pas passer en politique, mais presque, mais à condition de ne pas faire n'importe quoi. Ce qu'il souhaitait dans son fort intérieur, ça ne se sait pas beaucoup, je vais livrer un petit secret, mais après tout, maintenant, il y a prescription. Je crois qu'il souhaitait devenir ministre de la Culture et de la Communication, étant donné son expérience. Et quand Jean-Pierre Raffarin a été nommé Premier ministre, on était tous, évidemment, dans la cour de Matignon, tous les journalistes, pour voir quelle allait être la composition du nouveau gouvernement. Et qui apercevait-on auprès de Jean-Pierre Raffarin à l'intérieur du bâtiment de Matignon, dans les bureaux, derrière les fenêtres, on apercevait Jean-Pierre Elkabbach faisant les 100 pas avec les uns et les autres, et tout le monde s'est dit « Oh, il va peut-être décrocher quelque chose ». Malheureusement pour lui, ça ne s'est pas fait. Bon, il est revenu à Public Sénat, il a fait un excellent travail, mais ça lui a traversé l'esprit à un moment donné. C'était vraiment un homme d'une expérience tous azimuts, tout terrain, et je pense qu'il aurait été très fier, à un moment donné, d'être ministre de la Culture, non pas pour faire de la politique, de traiter en politique, mais d'élever en quelque sorte les débats qu'il avait animés toute sa vie et d'en faire quelque chose de très important. Je pense que ça aurait été un bon ministre de la Culture.
Fernand, d'autres sujets aujourd'hui. Alors un sujet, vous allez être très court sur ce sujet, mais à l'Assemblée nationale, bon, il n'y a pas de questions au gouvernement, je crois.
Si, les questions au gouvernement ont repris, sauf au Sénat, où le Sénat a un nouveau président. Et toute cette semaine, on élit les vice-présidents, les présidents de commission, les présidents de groupe, etc.
Donc, alors, parmi les sujets évoqués à l'Assemblée nationale aujourd'hui, les Arméniens, est-ce qu'il y a eu confrontation ou est-ce qu'il y a eu consensus?
Eh bien écoutez, pour la une des premières fois, une des rares fois que j'ai observé les choses à l'Assemblée nationale, en particulier dans l'hémicycle, tout le monde s'est levé comme un seul homme pour applaudir et acclamer le député Jean-Louis Bourlanges, qui est un ancien député centriste, qui a posé la question suivante. Il a dit au député, écoutez, il faudrait peut-être dans cette affaire réaliser un véritable plan Marshall de réinstallation des réfugiés. Il faut aider l'Arménie très rapidement et autrement. Et il a eu cette phrase qui a déclenché les applaudissements. Assez de lâcheté et de condescendance, l'Arménie doit vivre. Et là, tout le monde s'est levé, de droite à gauche, d'extrême droite à extrême gauche, si j'ose dire, et a applaudi très longuement cette position du député Bourlanges. Alors, le lendemain, même pas le lendemain, juste après, vous savez, c'est le ministre qui répond. C'était en l'occurrence, c'était la ministre des Affaires étrangères, Madame Colonna, qui a pointé du doigt, qui a condamné évidemment tout ce qui se passait en Azerbaïdjan, et qui a dénoncé je cite, l'attitude complice de la Russie. Là, elle est allée un peu loin, mais ça dit quand même beaucoup. Ça a été dit dans l'hémicycle. Voilà. Donc c'est un moment important pour une fois qu'il y a unanimité
pour
venir au secours de l'Arménie.
Alors évidemment, il y a beaucoup de sujets qui ont été évoqués. Dans l'actualité, la fac de Marseille a été fermée. Là aussi, ça retient l'attention et ça pose beaucoup de questions.
Alors en vérité, c'est pas toute la fac de Marseille, c'est un site de la fac de Marseille qui rassemble 1500 étudiants. Et en fait, le doyen dit, mais attendez, on donnera toujours des cours via Internet, etc. Bon, d'accord, mais il dit que le problème maintenant, c'est de ne pas se plier aux dealers qui encombrent le terrain. Bon, est-ce qu'en faisant ça, est-ce qu'en prenant cette disposition, véritablement, les dealers vont disparaître ? Non, s'il n'y a pas une réaction policière
forte,
mais pas seulement policière. C'est ce qui est actuellement demandé par les autorités là-bas. Il faut une réaction aussi judiciaire forte. C'est-à-dire que tous les dealers devraient être systématiquement arrêtés et incarcérés. Mais vu le nombre qu'ils sont et l'état de nos prisons et le fait de ne pas pouvoir accueillir non plus des milliers et des milliers de délinquants, ça devient compliqué. Mais c'est une véritable affaire à Marseille. Elle ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait des années et des années que ça dure. Alors voilà, M. Darmanin et surtout le président de la République sont face à un problème qu'il faut résoudre à tout prix.
Alors aujourd'hui, il y a deux questions quand même qui ont émergé. Deux questions qui marquent une certaine inquiétude. C'est à propos de l'immobilier, des constructions et à propos de la pêche également.
Alors la situation des uns et des autres, c'est à peu près la même. Les pêcheurs, en particulier bretons, disent au gouvernement, étant donné le prix de l'énergie, on n'y arrive plus. On ne peut plus mettre des tonnes et des tonnes de carburant dans nos bateaux. C'est impossible. Alors que pouvez-vous faire ? Alors le gouvernement, évidemment, lui dit « aidez-nous, baissez nos charges, baissez le prix du carburant ». Le gouvernement est face à cette réflexion, mais la menace est là. Les pêcheurs disent, si on n'est pas un minimum aidé et si on ne vient pas un minimum à notre secours, on croule littéralement et on est obligé d'abandonner notre métier. Ça, c'est une chose. Dans le bâtiment, on est à peu près dans la même chose, sauf que à cause des problèmes de finances qui sont très importants, eh bien, le bâtiment ne va plus parce que les taux d'intérêt, comme vous le savez, qui étaient environ autour de 0 ou 1% il y a 3 ans, aujourd'hui sont grimpés à 6%. Plus personne n'achète du neuf ou n'achète un appartement. Les particuliers voient leurs demandes rejetées par les banques parce qu'ils ne pourront plus faire face, en fonction de leurs revenus, aux nouveaux taux d'intérêt. Alors, on entend le gouvernement qui, tout d'un coup, s'affole et dit « Bon, attendez, on va revenir, on va peut-être voir un peu ce qu'on peut faire et peut-être réintégrer ou rétablir le 0%, c'est ce qu'il se dit aujourd'hui, auprès de ceux qui ont des difficultés et qui peuvent prouver que, vraiment, il leur faut ça pour pouvoir acheter des bâtiments. » Mais là aussi, le cri d'alarme, il est non seulement des particuliers, il est de tous les professionnels du bâtiment, en particulier le monde des artisans. Les artisans ont des équipes, ont des employés, il y a du monde. Et s'il n'y a plus de travail sur les chantiers, ce qui est
c'est important.
Cas en ce moment, eh bien ça va aller difficilement.
Alors pour aller vite, parce qu'il nous reste vraiment une poignée de minutes, enfin même peut-être une minute et demie. Des bonnes nouvelles du côté des gendarmes, on en parle, c'est-à-dire qu'il y a des crédits pour des nouvelles brigades de gendarmerie. Dans notre région, c'est le cas,
oui,
dans les Ardennes et dans la Marne.
Bon, on peut dire que dans les mairies, actuellement, les mairies concernées, on se réjouit. Faut peut-être aussi dire que, bon, la décision est annoncée, mais ça se mettra en place dans un délai de 4 ans. Donc, on va y aller petit à petit. Donc, ça va pas tomber d'un seul coup. Mais néanmoins, bon, il faut que ça revienne. Alors, les plus politiques disent quoi ? Voilà, c'est de la faute à Sarkozy, il avait qu'à pas supprimer la police de proximité, etc. Voilà, bon, on fait toujours de la politique politicienne.
On aura l'occasion de nous retrouver, Fernand, parce qu'il y avait beaucoup d'autres sujets qu'on aurait pu évoquer, en particulier les auditions en commission sénatoriale sur la fin de vie. On aura l'occasion d'en reparler. Alexis, c'est l'heure de clore un peu cette édition, parce qu'il est 18h58.
On ne va pas se gratter trop longtemps, mais je vais vous dire quand même qu'à Matignon, vendredi, il y aura un conseil exceptionnel pour lutter contre...
Mais dites voir.
Les punaises de lit.
Les punaises de lit.
Ah, les punaises de lit. Oh, j'aurais
voulu. Vous êtes plus dans l'actu, Jean-Pierre. Vous êtes plus dans l'actu. Vous êtes très concentré en politique. Avec un numéro vert disponible au cas où.
En effet. Enfin, Ça m'intéresse guère, ça.
Ouais, mais parce que vous n'êtes pas encore infecté chez vous, Jean-Pierre.
Ah oui, c'est
vous,
vrai.
Vous qui êtes un peu hypochondriaque, pour le dire à nos auditeurs, le jour où
pas...
ça vous arriverait,
c'est
je
pas vraiment
pense
maladie,
que vous serez
le premier
à courir.
Ça a été à la une de l'Assemblée nationale, vous savez.
Ah oui, bien sûr.
Et on n'a pas tellement rigolé.
Bon, allez, il est temps de se dire au revoir. On salue Mélissa Tavares qui nous a accompagnés jusqu'au bout. Aucun lien familial avec Fernand Tavares, quoique
on
peut remonter les origines sur quelques siècles.
On ne sait pas.
Peut-être que vous avez un ancêtre lointain qui vous rapproche.
C'est possible.
Jean-Pierre Benoît, on vous dit à demain, 18h10.
Bien sûr, Alexis, demain, et puis on aura l'occasion, bien sûr, de vous retrouver. Et on souhaite, bien sûr, à toutes nos auditrices ou nos auditeurs une très, très belle soirée.